Roxane de la Sablonnière est avec nous. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Hélène.
Roxane, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, et cofondatrice du projet Intercom. Et Roxane, vous avez lu « Comment garder espoir dans un monde en crise pour mieux affronter les défis de l'humanité ». C'est un livre qui a été publié aux éditions Trécaré, écrit par Marc-André Dufour. Alors, la question, pourquoi ce livre vous a-t-il inspiré?
Oui, ça m'a beaucoup inspiré parce que les chroniques mensuelles que je fais tous les mois abordent vraiment des thèmes qui sont similaires à ceux de l'auteur. D'abord, l'auteur, c'est un psychologue clinicien, il est chroniqueur aussi, puis auteur. Et puis, il offre un angle qui est différent, mais quand même, somme toute, complémentaire à ce que nous discutons à chaque mois. Mm-hmm. J'ai aussi écrit cette chronique avec Floris Van Vook, qui est professeur agrégé au département de psychologie de l'Université de Montréal. Puis, je vais vous allez comprendre là, pourquoi là, nous l'avons écrit ensemble.
Parfait.
Donc, le livre, comme mes chroniques, vise une réflexion qui est réaliste face aux bouleversements sociaux que connaissent nos sociétés et qui affectent chacune d'entre nous. Nous tentons aussi de susciter l'espoir en proposant des pistes de solutions ou d'actions plutôt que de rester dans un sentiment d'impuissance ou de perte de contrôle. L'auteur écrit, puis je suis d'accord, « Avec ce livre, je souhaite simplement créer un espace de réflexion au sein duquel nous pourrons, moi y compris, méditer sur l'état de notre civilisation, sur les défis auxquels l'humanité fait face et aussi sur les moyens individuels et collectifs de composer avec cette situation. » Donc, le livre m'a inspirée parce qu'il s'appuie sur, évidemment, l'expérience de l'auteur en tant que psychologue, mais aussi sur la science. Il promeut l'importance de la pensée critique, par exemple, en utilisant des sources scientifiques, des données probantes. Puis en plus, le ton du livre n'est pas culpabilisant. Donc, il suscite une réflexion qui est profonde sur les actions individuelles que nous pouvons tous poser dans notre quotidien. Ainsi, il offre des pistes concrètes vers la résilience ou bien à une adaptation à notre monde qui est en crise en ce moment.
Alors, dites-nous, Roxane, quelles sont les idées principales du livre?
Bien, l'idée centrale, c'est que nous devons avoir un regard qui est réaliste. Donc, on doit, par exemple, reconnaître que les enjeux climatiques sont vraiment réels et que la planète est essentiellement en train de brûler. Donc, il pose la question suivante. Comment faire face à ce défi existentiel sans perdre la raison et surtout en cultivant l'espérance? Donc, le livre fait un parallèle avec l'annonce d'un diagnostic grave chez quelqu'un. Donc, il donne l'exemple de M. X, dont la médecin lui annonce qu'il a de graves problèmes de santé. Son foie et son système respiratoire sont dans un état qui est lamentable et il présente des risques de problèmes cardiovasculaires sérieux.
Ça va pas bien.
Ça va vraiment pas bien. Il doit absolument se prendre en main et changer son mode de vie, arrêter de fumer et faire de l'exercice. Donc, il propose trois scénarios, l'auteur. Dans le premier scénario, M. X adopte une posture de déni et de protestation. Il cherche sur Internet des informations qui vont confirmer que son état n'est pas si désastreux que ça. Donc, pour se rassurer, il pense à son oncle qui a fumé toute sa vie, qui est décédé à 90 ans. Puis rapidement, il retombe malade avec de lourdes conséquences comme des opérations qui sont extrêmement risquées. Dans le deuxième scénario, M. X ne fait pas preuve de déni, mais se sent plutôt impuissant, résigné, déprimé. Il comprend ce qui lui arrive et pense aux belles années qu'il a eues. Il se reprend un peu en main, mais rapidement, il va retomber dans ses vieilles habitudes et il va se laisser aller. Il se sent triste et sa santé se détériore. Alors que dans le troisième scénario, M. X fait d'abord confiance à sa médecin en se disant qu'elle a un peu plus d'expérience que lui. Il s'informe tout de même dans des revues de médecine, puis accepte la situation même si c'est difficile. Il se mobilise ensuite pour arrêter de fumer. Il fait du sport et développe des habitudes de vie qui sont un peu plus saines. Donc, c'est la même chose avec les changements climatiques puis les crises sociales. Nous pouvons refuser de reconnaître la réalité. On peut aussi être déprimé ou bien accepter et se mobiliser. Donc, l'auteur, Marc-André Dufour, nous donne dans son livre certains outils pour nous mobiliser dans notre quotidien.
Alors, je peux comprendre l'acceptation, mais comment ne pas ressentir de l'impuissance devant ces défis qui semblent insurmontables? Et comment on peut vraiment nous mobiliser pour nous adapter aux crises et qui sait peut-être changer la situation?
Oui, ben en fait, il propose plusieurs pistes, puis je vais juste vous en sortir deux pour le moment. Donc, la première, c'est regarder la réalité en face.
Oui, pas se mettre la tête dans le sable.
Exactement. Au départ, comme M. X il a accepté sa maladie là, dans le troisième scénario, c'est important de reconnaître la réalité, puis même si c'est pas vraiment confortable. Donc, le déni, c'est c'est plus facile.
Ouais, c'est comme une fuite.
C'est comme une fuite, puis ça s'observe dans des comportements comme de continuer de fumer ou bien de s'enfoncer dans le travail puis d'oublier le reste. Donc, on ne se pose pas des questions, puis ça peut être plus difficile de reconnaître que ce que nous ressentons, comme, par exemple comme la colère, l'impuissance, puis du désespoir. Donc, regarder la réalité en face représente une première étape pour une résilience qui est authentique, c'est-à-dire qui se fonde sur de vraies émotions. Une deuxième piste de solution, c'est de favoriser les liens sociaux. Puis l'auteur met de l'avant l'importance de la solidarité entre les humains. Il y a des études scientifiques, d'ailleurs, qui ont montré que le soutien social favorise le bien-être et la satisfaction de vie. Donc, dans la vie. J'ajouterais ici que le fait de donner aux autres, de poser des petits gestes, des gestes qui sont positif envers autrui bénéficie évidemment à la personne qui reçoit, mais aussi à celle qui donne. Donc, par exemple, il y a une équipe de chercheurs qui s'est penchée sur le concept de la gentillesse. Donc, il peut être défini comme le fait d'agir dans l'intérêt de quelqu'un d'autre, sans chercher à obtenir un avantage spécifique en retour. Donc, cette étude a montré que le fait de s'engager dans des actes d'entraide, c'est associé à un plus grand bien-être psychologique et même physique pour soi-même. Donc, il y a même une autre étude qui a demandé aux participants de faire des actes de bienveillance aléatoires là, pendant une heure et demie et qui ont permis de constater que ça suscitait des sentiments positifs et des sourires qui étaient sincères chez les bénéficiaires. Cependant, puis c'est crucial, ceux qui ont accompli eux-mêmes ces actes ont également montré des améliorations dans un éventail impressionnant de mesures de bien-être, comme des sentiments moins négatifs, un plus grand optimisme, la gratitude et plus de satisfaction dans la vie. Donc, s'engager dans des actions de gentillesse se révèle vraiment puissant. Puis, on pourra y revenir dans une autre chronique si jamais ça vous intéresse.
Mais
parce
oui.
que c'est un sujet de recherche que moi et mon collègue Floris Van Vook, on explore conjointement en ce moment. Puis d'ailleurs, Floris tenait vraiment à ce que je précise ceci. Souvent, nous faisons quelque chose pour une personne, comme lui accorder notre temps, sans vraiment y prêter attention. Et aussi, surtout, sans nous rendre compte que l'effet positif de notre geste peut être important, considérable. On ne peut pas toujours mesurer la portée de ce qu'on fait parce que la personne ne va pas nécessairement nous le dire. Puis des fois, elle est juste plus là, la personne. Mm-hmm. Si on aide quelqu'un dans le métro, ben elle est partie. Par la suite, on va jamais voir les effets de ce qu'on fait nécessairement.
C'est vrai, puis ça me fait penser aussi aux proches aidants qui se rendent pas compte jusqu'à quel point ils sont aidants, justement, et ils font du bien à ceux qu'ils aident. Là. On s'oublie souvent quand on a de la gentillesse, on a de l'attention envers l'autre, de l'écoute aussi.
Exactement.
On oublie d'être gentil envers nous-mêmes.
Puis... On n'est pas capable de constater l'impact chez l'autre nécessairement.
Oui.
Dans le cas d'un proche aidant, peut-être aussi c'est le fait que sa santé pourrait se détériorer. Donc on a comme l'impression d'être dans un cercle, mais finalement, ce qu'on fait est essentiel parce que c'est lié directement aux liens sociaux.
Oui, puis, et fait du bien pour vrai.
Ça fait du bien, puis les liens sociaux, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Fait que ça vient nous conforter aussi dans qui on est, dans notre identité.
Alors, Roxane, plutôt, vous avez mentionné que l'auteur aborde la pensée critique. Alors, est-ce que le sens critique peut aussi être une arme pour combattre l'impuissance?
Oui, en effet, Marc-André Dufour, dans son livre, mentionne l'importance de développer son sens critique. Donc, être critique, c'est quoi? Ça consiste à s'informer puis à demeurer alerte à l'égard de la désinformation. Ça nous éloigne les uns des autres, la désinformation, via le phénomène de chambre d'écho. Donc, une chambre d'écho, c'est lorsque les algorithmes des médias sociaux nous exposent principalement à des informations qui vont confirmer nos opinions.
Ils nous disent ce qu'on veut entendre.
Ils nous disent ce qu'on veut entendre, puis ainsi, ils réduisent la diversité des points de vue ou des points de vue des autres. Donc, rester critique, ça signifie pas de nous retirer nécessairement de tous les réseaux sociaux. C'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire de prendre le temps de réfléchir, de nous ouvrir aux opinions des autres, puis même aux idées qui sont différentes des nôtres. Parfois, de prendre un pas de recul, sachant que les informations qui nous sont proposées sont peut-être erronées et qu'elles ne représentent pas ce que tout le monde pense. Donc, développer un sens critique, c'est aussi comprendre que toutes les sources d'informations ne sont pas équivalentes et qu'il existe une différence entre une opinion et des faits. Une autre façon pour demeurer critique, c'est prendre conscience de nos biais, de nos propres préjugés, puis d'essayer justement de prendre un petit pas de recul pour essayer de les déconstruire. Donc, la prise de conscience, c'est une des premières étapes.
Oui. Vous semblez avoir beaucoup apprécié ce livre, mais je me demande, étant donné que vous parlez de critiques, est-ce que vous avez des critiques à formuler à l'égard de ce livre?
Ben oui, évidemment. Donc, c'est un livre qui aborde une question qui est extrêmement complexe. Puis que beaucoup de choses de ce fait à améliorer, peut-être dans un prochain ouvrage. Donc, c'est un livre qui se lit très facilement, qui suscite l'espoir. L'accent est mis sur nos actions individuelles. Comment aller vers les autres? Comment les aider? Il présente des stratégies pour mieux s'adapter individuellement aux crises sociales. Donc, évidemment, j'en ai mentionné que quelques-unes. Les actions individuelles sont vraiment importantes, surtout quand elles sont en cohérence avec nos valeurs. Par contre, il y a aussi des actions collectives qui sont possibles ou politiques. Souvent, on se sent très impuissant devant toute la complexité puis on ne sait pas par où commencer. Donc, j'aurais peut-être apprécié que l'auteur discute davantage des pistes collectives ou politiques qui proposent des réponses aux crises sociales qui se profilent à l'horizon. Donc, en insistant sur des outils destinés aux individus, parfois, on place un lourd poids sur leurs épaules pour instaurer le changement à long terme. Puis c'est là que l'approche individuelle peut avoir ses limites. Donc, réfléchir à des actions concrètes menées collectivement pourrait contribuer à sortir d'une logique qui est individualiste et ainsi renforcer la solidarité, puis peut-être donner des pistes aussi à ceux et celles qui ont le pouvoir de changer les lois, par exemple.
Ça serait bien de l'inviter, ce monsieur Dufour, avec vous, puis bon, qu'on puisse avoir une petite table ronde à discuter.
Pourquoi pas?
Oui. Alors, je rappelle le titre de son livre, « Comment garder espoir dans un monde en crise pour mieux affronter les défis de l'humanité » par Marc-André Dufour, qui a déjà écrit un autre livre qui s'intitule « Se donner le droit d'être malheureux ». C'est un titre qui nous accroche, publié chez le même éditeur Trécaré en 2020. Marc-André Dufour. Et c'était Roxane de la Sablonnière qui l'a lu pour nous en compagnie de Floris Van Vaux. C'est comme
Exactement.
Ça qu'il faut prononcer. Merci Roxane. On se retrouve le mois prochain.
Au revoir.